Bravo.
Soyez alerte. La chronique que voici pourrait vous déranger. Tel le moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de Lucac, Reynald Duberger.
Non, mais mon laisse moi ce qui tombe.
Ah, durant la semaine de relâche, notre bon ami Reynald Duberger est allé du côté d'Orlando, en Floride.
Ouais. Belle petite place.
Ben oui, belle petite place. Et, mais pas là pour aller prendre des vacances. Non.
Lui, il s'amuse pas, là, ces affaires-là.
Il prend jamais de vacances. Renal est allé du côté de la conférence internationale sur le changement climatique. Alors, il a assisté à cette conférence. Il va nous en parler, Renal Duberger. Bienvenue.
Bonjour. Ben, je pourrais vous dire que j'ai jamais autant gelé qu'à cette conférence-là, parce que à l'hôtel Hilton, qui est juste à côté du Disney World, il y avait l'air conditionné dans les salles de conférence. De temps en temps, entre deux présentations, je sortais au bord de la piscine où il faisait 32 pour me réchauffer un peu. Mais j'ai vraiment gelé là-bas.
Mais côté température à l'extérieur, Floride, c'est bien en ce moment?
Ah, et ben, quand j'étais là, il faisait 30, 32 le jour, il faisait peut-être 18, 20 la nuit.
OK.
Wow.
OK. Ouais. Et bon, conférence internationale sur les changements climatiques. Qu'est-ce qui en est sorti de tout ça?
Oui, c'est une conférence qui est organisée chaque année, sauf qu'on a sauté 2 ans à cause de la COVID, là. C'est organisé par une institution qui s'appelle le Heartland Institute, qui est une institution climato-réaliste. Moi, je suis un climato-réaliste, donc qui regroupe surtout des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs et des gens de l'industrie aussi, qui mettent un gros doute sur la responsabilité principalement humaine des changements climatiques. J'y ai revu des gens que je connaissais déjà, des amis. Je pense entre autres à Patrick Moore, le fondateur de Greenpeace, qui a tourné le dos à Greenpeace là, depuis plusieurs années, mais c'était un des fondateurs de Greenpeace, qui nous a présenté même des images du temps où il était jeune militant devant des baleiniers dans un zodiac pour défendre les baleines. On voyait des baleiniers russes là avec des harpons prêts à harponner des baleines. Il était très, très militant à cette époque-là. Mais ça, c'est un autre temps. Quand il s'est aperçu que Greenpeace déviait de ses missions fondamentales et voulait ramasser surtout de l'argent pour entretenir ses bateaux, ses hélicoptères, ses avions, ses laboratoires, on dirait en français, lancer l'éponge. Et puis, il est un climato-réaliste convaincu. Wow. J'ai rencontré aussi un bonhomme que je connaissais, que je respecte beaucoup, un géologue, professeur émérite à l'université de Adélaïde en Australie, Ian Plimmer. Et je lui ai dit, j'ai déjeuné avec lui le samedi, et puis je lui ai dit qu'il était son premier livre sur le climat, c'est celui vraiment qui m'a convaincu au climato-réalisme. Et puis, Ian Plimmer, c'est un géologue spécialiste, c'est le spécialiste dans le monde des gisements de cuivre de type porphyry copper. S'il y a des géologues qui nous écoutent ou des étudiants en géologie, ils savent probablement de quoi je parle. D'ailleurs, après la conférence, il me disait qu'il se dirigeait vers l'Équateur. Même s'il est à la retraite, il est toujours actif dans le domaine de l'exploration minière. C'est un spécialiste des gisements de métaux, de cuivre dans le monde. À cette conférence-là, on a discuté de plusieurs aspects reliés au climat, entre autres les données climatiques, ou météorologiques, est-ce qu'elles sont fiables? Moi, j'ai découvert avec... j'étais pas trop surpris, là, parce qu'on m'en avait déjà parlé. Il y a 96% des stations météorologiques américaines qui sont corrompues, c'est-à-dire qui donnent des données qui ne sont pas fiables. Et on a vu des photos des stations météorologiques qui sont mal situées. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle l'effet de l'îlot urbain. Ça nous permet de nous interroger. Est-ce que les données qu'on possède pour pouvoir comparer l'évolution du climat présentement au climat ou température passée, est-ce que c'est fiable, ça? Je ne sais pas. Mais je poserais même la question pour les stations météorologiques canadiennes. Est-ce qu'elles souffrent des mêmes corruptions que les données américaines? pourquoi un journaliste d'enquête de Radio-Canada se met pas là-dessus et puis fouille un peu là-dedans à Environnement Canada? On a parlé également du fameux net zero, le zéro net d'émissions de carbone pour 2050. C'est absolument irréaliste. C'est, je dirais, c'est une utopie. Juste pour arriver à ça, là, en 2050, il n'y a pas assez d'argent à l'heure actuelle dans le monde pour payer ce que ça va coûter. On a parlé également des modèles climatiques sur lesquels le GIEC base ses prédictions sur ce que va être la température de l'atmosphère dans l'an 2100. Ces modèles-là souffrent de grosses erreurs. Ces modèles-là surchauffent. Les modèles ne s'accordent pas aux données satellitaires puis aux données des ballons sondes. Moi, j'ai découvert aussi avec un grand plaisir qu'il y a des organisations comme CO2 Coalition qui créent du matériel pédagogique pour les jeunes, pour les enfants dans les écoles, pour équilibrer ce que moi j'appelle la propagande climato-alarmiste qui leur est faite à l'heure actuelle. Donc, on a abordé également le problème des énergies qu'on appelle vertes, là, les éoliennes. Et d'ailleurs, Patrick Moore nous a montré que dans son temps, quand il était jeune, c'était les baleiniers russes qui menaçaient les baleines. Maintenant, on voit des baleines échouer le long des rivages où il y a des parcs d'éoliennes. Les éoliennes sont nocives pour les baleines. Et on a parlé des auto-électriques et beaucoup de sessions également sur l'exploration et l'exploitation des carburants fossiles. Et j'aurais aimé que des gens qui sont contre le projet GNL Saguenay soient là pour écouter ça. À l'heure actuelle, vous avez une opportunité formidable de lever les moratoires sur l'exploration puis l'exploitation des gaz et pétrole de shale au Québec, puis ensuite de bâtir des infrastructures, des terminaux qui vont permettre de liquéfier ces gaz naturels-là sur lesquels on reste assis bêtement là, en refusant de les exploiter pour des raisons bêtement et écologique.
Tout à fait.
Moi, ça m'a permis également de découvrir des choses. Quand j'ai déjeuné avec Ian Plimmer, il a présenté des corrélations entre les activités sismiques et le réchauffement global. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un article là, qui s'appelle « The Correlation of Seismic Activity and Recent Global Warming », la corrélation entre l'activité sismique et le réchauffement global récent. Et c'était publié, ça, en 2016, c'est pas d'hier, « Journal of Earth Science and Climatic Change ». Donc, moi, c'est des aspects que je connaissais peu, puis auxquels je commence à m'intéresser grâce à cette conférence-là. Nice. C'est assez curieux parce que les gens qui étaient là, on était à peu près 300 participants à la conférence.
Quand même.
La plupart des gens de mon âge, des têtes grises. Beaucoup de professeurs d'université à la retraite. Pourquoi à la retraite? Parce que ils sont maintenant libres de parler, libres de dire vraiment ce qu'ils pensent sur ces questions scientifiques-là. Ils ne pouvaient pas le faire quand ils étaient attachés soit à la NASA, soit à l'Université de Columbia, soit à telle autre université. Donc, c'est quand même surprenant. Puis, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, quand j'étais à l'université, je ne pouvais pas dire vraiment ce que je pense. Et vous savez maintenant que moi, je dis ce que je pense parce que je parle à votre radio depuis déjà quelques années.
Oui.
Mais si je regarde mes propres collègues ou ex-collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi, ceux en sciences de la Terre que j'ai côtoyés pendant des années, ils connaissent mes opinions sur les changements climatiques. Ils m'ont jamais invité à les présenter à eux-mêmes et à leurs élèves, à leurs étudiants. Puis plusieurs années, j'ai fait une présentation, un genre de bar de science, là, à la Tour à Bière, devant la cathédrale. Puis il y avait 4 ou 5 étudiants de sciences de la Terre de l'UQAC qui avaient entendu parler de moi à la radio, puis qui voulaient savoir ce que je pense, parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas être invité au département module des sciences de la Terre de leur université, parce que je suis une espèce de persona non grata vis-à-vis le climat. Alors, J'ai même, il y a quelques années, envoyé un email à mes collègues de l'UQAC en leur demandant ce qu'il y en a d'entre vous qui évoquaient les changements climatiques au moment de vos demandes de subventions de recherche. J'ai eu aucune réponse. Non. Que pensent les professeurs de géologie de l'UQAC et de d'autres domaines également sur les changements climatiques? Et qu'est-ce qui... est-ce qu'ils aimeraient avoir une autre opinion que l'opinion officielle que c'est l'homme qui crée, qui est le facteur principal qui influence le climat? Est-ce que ça les intéresse de connaître ça? Alors, s'il y a des étudiants de géologie de l'UQAC qui m'écoutent, ils peuvent rentrer en contact avec moi et puis me poser des questions, puis peut-être suggérer à leur professeur de m'inviter. C'est gratis! Je vais traverser le parc, puis je vais payer mon gaz à effet de serre.
Incroyable. Oui, donc? Incroyable. Puis, anyway, ça me surprendrait que tu aies beaucoup de réponses, parce que on sait que c'est rendu une religion maintenant.
Ben, c'est comme un peu ceux qui croient que la Terre est plate et ils veulent pas faire de débat, parce qu'ils savent très bien qu'il va être détruit assez rapidement.
C'est considéré comme un hérétique pour eux autres dans la religion. Hein.
Ben, je vois vendredi matin dernier, en France, mon ami Christian Girondeau, dont je vous ai déjà parlé, était sur le plateau de Pascal Pro, l'heure des pros, et puis il a carrément dit qu'il y a très, très peu de gens, de scientifiques qui sont prêts à débattre avec lui, parce qu'il pose des questions qui sont peut-être... considéré par la communauté scientifique comme un peu trop gênante en matière de changement climatique. Donc, on a un problème, nous, les scientifiques qui sommes climato-réalistes, c'est que les climato-alarmistes ne veulent pas entendre ce que nous avons à raconter. Puis c'est la même chose pour les médias. Moi, j'aimerais bien que le cercle de presse du Saguenay, je ne sais pas s'ils se réunissent encore, là, dans mon temps, à l'hôtel Chicoutimi, le vendredi, ils faisaient des conférences. Il y avait toujours un conférencier invité. Il pourrait m'inviter puis peut-être me confronter avec un chercheur de l'UQAC qui ne partage pas mon opinion, puis il y aura un débat en toute civilité puis en toute politesse. Je ne demande pas mieux. Même chose dans les écoles, s'il y a des professeurs qui ne partagent pas mon point de vue, il pourrait inviter un scientifique qui est climato-alarmiste et puis le confronter avec moi. C'est comme ça que la science avance.
Ben effectivement, c'est en se questionnant, mais... Oui. Les religions, elles, ne se questionnent pas. Elles ont la vérité
absolue. C'est ça que je déplore. J'ai mis sur ma page Facebook un film magnifique qui s'appelle « Marcher sur l'eau ». C'est un film nigérien, africain, qui montre l'importance de l'eau potable en Afrique. C'est un gros problème. J'en suis conscient parce que j'ai travaillé là-dessus avec mes deux collègues Alain Rouleau et Gilles Lemieux de l'UQAC. Et puis, la seule scène qui m'a déplu dans ce film-là, c'est on voit l'école avec les trous dans les murs puis dans le plafond, puis le professeur qui dit à ses élèves, vous savez, des petits-enfants de 7-8 ans, là, si on n'a pas d'eau dans notre village, c'est à cause des riches blancs du Nord qui ont déréglé le climat. Puis là, il leur dit, répétez après moi, changement climatique, changement climatique. Puis là, les jeunes de 7-8 ans, en cœur, entendent changement climatique. C'est la seule scène qui m'a déplu dans ce film-là. On met beaucoup de problèmes contemporains d'ordre géologique, biologique, sur ce pseudo-problème de changement climatique. Et c'est dommage. On endoctrine les jeunes. D'ailleurs, je ferai une chronique peut-être la semaine prochaine sur ce qu'en France s'appelle maintenant parents vigilants, si les parents veulent commencer à s'inquiéter de ce qu'on raconte à leurs enfants dans les écoles, c'est le temps qu'on en parle.
Nice. Rénal Duberger, merci beaucoup.
Au plaisir.
À la prochaine.